Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons la censure, la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Nous sommes au vendredi 12 juillet 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est l'heure à laquelle l'émission Club de la Presse démarre et nous sommes à ce cinquième numéro pour l'émission Club de la Presse alors de cette semaine, bien sûr, et ça démarre comme ça. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de Sozo, Thomas était d'Atevi, assure la mise en onde. Jérôme Dakoucha était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lesou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir YouTube, Facebook et autres plateformes digitales, bien sûr, et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, bien sûr. Alors, confrère journaliste en studio avec moi, Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Bien passé la semaine?
Oui, grâce à Dieu, la semaine s'est bien passée.
Dieu merci. Alors, notre cher ami Kofi Annani aussi est là. Monsieur Kofi, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère
bonjour,
que vous allez bien.
Ah, nous allons bien.
Vous avez bien passé la semaine?
On remercie le Seigneur.
Dieu merci. Gosson Ketomanyan, bonjour.
Bonjour Pascal.
Comment vous allez?
Pas ce qui ne va pas, le reste, ça peut aller.
Vous êtes le président de, je ne sais
plus, des journalistes pauvres, très endettés, JPTE.
Ah bon?
Ça existe? Nous sommes un PPTE, donc c'est normal qu'il y ait un JPTE dans le PPTE.
Dans le PPTE?
Oui.
Mais si nous changeons même d'ailleurs de système, ou du moins alors de statut, ça pourra changer aussi votre association?
Vous pensez que le Togo aimerait quitter le club des pays pauvres, très endettés?
Mais est-ce que ce n'est pas l'effort qui est fait?
On l'avait fait, mais après que la dette a été revue à moins de 40%, où est-ce qu'on en est aujourd'hui encore?
D'accord, merci. J'allais dire merci, monsieur le président. Bonjour.
Bonjour, Pascal Lesou, merci de m'avoir invité. Je voudrais répliquer un peu par rapport à ce que Gosson a dit. Souvent, quand on dit pays pauvres, très endettés, ça veut dire vous êtes solvable. Ça veut dire aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez des ressources. Avec ces ressources, on pourrait payer la dette. Moi, je me demande si Golson, aujourd'hui, en sa qualité de président, est vraiment solvable. Est-ce qu'on peut compter sur lui? On peut lui prêter de l'argent et pour être sûr qu'il pourrait nous rembourser.
Je pense que cette question lui sera posée hors antenne et il saura répondre. Alors, nous avons une invitée ce matin, c'est Maître Kadjaka Bounima Molga. Bonjour, Maître.
Oui, bonjour, Monsieur Pascal.
J'espère que vous allez bien, Maître.
Oui, je vais très bien.
Merci. Vous êtes la présidente de l'association AvroAIDS, Aide et Action à la Veuve, à l'Orphelin et à l'Enfant Déshérité. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui, surtout par rapport à cette activité que vous avez organisée tout récemment. C'était le 29 juin dernier et c'était une causerie débat à l'égard ou à l'intention des veuves. Et la question alors des veuves vous tient tellement à cœur puisque votre association lutte ardemment dans ce domaine. Et c'est pour cela que nous vous avons invité pour savoir plus alors sur ce qui est fait aujourd'hui sur la question alors des droits des veuves. Alors concrètement, quand on prend la situation des veuves aujourd'hui au Togo, c'est quoi la situation, c'est quoi le tableau?
En fait, en réalité, bon, la veuve, c'est déjà celle-là qui a perdu son conjoint. Et au Togo, on a l'impression qu'au lendemain du décès de son conjoint, la veuve est exposée à plusieurs exactions qui la rend vraiment vulnérable. Et notre action au niveau de l'association de l'ONG, devenue ONG aujourd'hui, c'est de parler de ce qui est fait plutôt en termes légaux au profit de la veuve afin que la population prenne connaissance des tests qui sont en vigueur et qui sont modernisés pour permettre à la veuve de jouir de ses droits. C'est plus dans cette optique-là et aussi permettre à la veuve de savoir qu'il y a des voies juridiques qu'elle pourrait emprunter pour se faire rétablir dans ses droits en cas de besoin. Voilà l'objectif poursuivi. Et bon, donc, la dernière fois, on a eu une activité dans le cadre de la Journée internationale de la veuve, tenue le 29.
Il faut qu'on rappelle quand même que cette journée, c'est le 23 juin.
C'est le 23 juin. L'activité était tenue dans le cadre du prolongement de cette journée-là pour mettre en lumière et le vécu de la veuve. Et donc, l'occasion était belle aussi pour écouter les veuves qui... le tableau qui était là, c'était que plusieurs d'entre elles qui étaient présentes, invitées, se sont plaintes du fait qu'au lendemain du décès, elles se sont vues confisquer leur pièce d'identité, et le certificat de mariage et mise dehors pour certaines. Et certaines qui étaient obligées, qu'on forçait à épouser le frère, au risque de sortir de la maison. Et il y en a qui étaient dans les situations de concubinage et qui se sont retrouvées face à une épouse qui n'a pas fait d'enfant. C'est la première ayant fait d'enfant, mais qui n'avait pas un certificat de mariage et dont les droits étaient donc totalement dévolus à la première. Et à celle qui a présenté un certificat de mariage, mais malheureusement, elle n'a pas su aussi se défendre par rapport à ses enfants dont elle avait la charge, elle avait la responsabilité en tant que administratrice légale des enfants mineurs, puisqu'elle a dit que les enfants étaient mineurs, mais elle s'est retirée, elle a laissé donc la succession au profit de celle qui n'avait pas d'enfants, mais qui avaient un certificat de mariage. Donc, c'était aussi l'occasion de leur rappeler que leur devoir en tant que parents et vivants et survivants, c'est aussi de s'impliquer dans la protection des droits de leurs enfants mineurs. Ben voilà un peu.
D'accord. Maître, j'ai participé à cette conférence des débats la fois passée. Et justement, nous avons écouté des dames, des veuves quand même, qui ont donné des témoignages poignants. Et il y a une autre qui disait la fois passée qu'elle n'était même pas là avant que famille de son défunt mari ne la chasse à la maison. Ouais. Et de la maison, j'allais dire. Et il y a même, quand elle est revenue à l'heure du marché, c'est en ce moment qu'elle a retrouvé ses bagages alors au dehors. Et même il y a quelqu'un dans le quartier qui l'a appelé plutôt pour lui dire que mais on est en train alors de faire sortir ses bagages. Est-ce que c'est des situations que vous connaissez d'habitude déjà avec l'association?
Oui, c'est des situations que nous connaissons. Il y en a même déjà, mais elle peut-être elle a eu la chance de vivre un peu le deuil avant d'être expulsée. Il y en a même déjà au cimetière, au retour du cimetière, et à qui on bloque les portes. Et, oui, à qui on bloque l'accès de la maison et on leur dit de rester dehors, plus jamais d'accès à cette maison-là, et sans effet. Vous voyez un peu. Donc, la dame qu'on a écoutée, il y a une qu'on a écoutée qui est partie de la maison sans effet.
Tout à fait.
Donc, bon, c'est des cas fréquents quand même, hein, qu'on écoute quand même, on écoute de ce genre de choses. Mais et ce qui est là, c'est que les femmes ne parlent pas. Elles ont peur d'être attaquées. Et pour la plupart qui étaient intervenues, se demandaient si la belle famille ne va pas les attaquer spirituellement.
Tout à fait, puisque nous avons écouté la dame la fois passée qui disait même d'ailleurs qu'elles ont souvent peur alors des représailles, surtout de la famille. Alors finalement, maître, c'est quoi la cause même d'ailleurs de ces situations?
Ben, la cause réelle de ces situations, c'est que dans la tradition africaine ancrée dans les us et coutumes, ils ne reconnaissent pas le droit de la femme à un héritage. Fille comme et la veuve et la fille, justement. Donc, la fille, le droit de la fille n'est pas connu. Donc, elle n'a pas accès aux terres, aux biens, au patrimoine. Mais à côté, il y a quand même la Constitution qui met tous les enfants sur le même pied d'égalité en termes de droits et devoirs, et le Code des personnes de la famille qui reconnaît le droit de succession et au même titre que les garçons, aux filles et aux garçons, sans distinction de sexe, ni de race, ni de religion. Alors, bon, donc, mais la tradition prend le pas sur, la tradition prenant le pas sur et le droit, donc elle devient la règle, alors qu'en principe, non. Mais alors, cette situation est d'autant plus vécue et subie dans la résignation par les femmes, parce qu'elles ont peur, de qu'on leur prive de la vie de leurs enfants. C'est surtout ça. Elles sont tellement protectrices qu'elles ne voudraient pas exposer leurs enfants à la sorcellerie. Voilà, il faut le dire comme ça. C'est de ça qu'elles ont peur. Ce n'est pas tant de l'agression physique. Mais si c'était une agression physique, elle peut s'armer. Elle peut s'armer, se défendre. Mais ce qui se passe derrière, c'est ça. Vous avez écouté ça aussi. Il y en a qui disent qu'elles ont peur de l'attaque spirituelle.
Tout à fait.
Bon, or, l'attaque spirituelle, est-ce que c'est pas une démission? Moi, je trouve que c'est une démission. Quand les lois sont là pour vous protéger, vous les faites valoir. Il y a les juridictions qui sont là pour accueillir ces gens. Mais la situation aussi de pauvreté fait que aussi les femmes n'ont pas les moyens pour accéder à la justice. Mmh. Et tout a un coût. Et à l'ouverture d'une succession pour établir les actes élémentaires pour se reconnaître en tant qu'héritier, il y a un coût. Le certificat d'hérédité, PV de conseil de famille, et où son équivalent et acte de notoriété désignant les héritiers après décès, et une procuration désignant un administrateur des biens. Mais ce qui est là, c'est que ces actes ont un coût. Des fois, la dame qui est généralement sans ressources parce qu'elle a passé toute sa vie aux tâches ménagères et qu'on ne lui reconnaît d'ailleurs pas, et comme étant un travail qui devrait être rémunéré, à la fin, elle se retrouve sans rien. Mmh. Et donc, face à ça, elle préfère se résigner à son sort. Mais est-ce que c'est la solution? Je crois que c'est l'occasion aussi d'en parler et d'interpeller toute la société au secours de la veuve. Voilà, au secours de la veuve. Et parce que ce sont, quelque part, c'est votre maman, c'est votre soeur, et c'est votre grand-mère qui est en train de subir. Mais bon, quand il s'agit d'une autre personne, on ne le voit pas comme ça. On attaque, mais quand il s'agit de vous, vous êtes dans vous appelez au secours. Mais quand ce serait votre tour, et c'est là où vous comprenez la peine que vous avez causée à l'autre. Mmh. Voilà.
Madame, est-ce qu'on ne peut pas arriver à comprendre aussi ces femmes, surtout les veuves, qui parlent surtout des attaques spirituelles, quand, tant est que déjà, il y a la loi qui ne prévoit pas des cas de spiritualité, et au fin fond, c'est aussi des réalités chez nous?
Bon, je ne veux pas dire que je ne crois pas à cette réalité-là, mais je crois que aussi la faiblesse de l'esprit aussi fait que vous êtes exposé.
Tout à fait.
Ben, quand on dit qu'on a un Dieu qui vous protège, je crois que nous sommes fortement croyants et qu'on peut se dire aussi qu'on peut se revêtir de l'armure de Dieu pour faire face à cette situation. Il suffit de les affronter. Je crois que réellement, quand vous le faites, ils ont peur. Eux aussi se demandent sur quoi vous êtes, vous fondez pour oser. C'est ça, il faut oser. Et c'est à travers cette émission, je crois que c'est un appel qui est lancé à toutes les femmes. Quand vous voyez une femme dans la détresse, je crois que l'autre qui est à côté devrait lui prêter main forte afin qu'elle puisse s'en sortir. Mmh. C'est ça.
D'accord.
Et donc, d'appeler aussi la conscience, d'interpeller la conscience de nos frères, de ces belles sœurs aussi qui n'attendent que ces occasions-là pour se venger. Et de leurs belles sœurs, de leurs enfants, à croire que la cupidité naît juste au décès pour s'approprier les biens. Mais ce qui est vrai et réel, c'est que si le monsieur, le frère, le beau-frère, ton conjoint qui est parti, avait des biens immobiliers, quel que soit le temps que les gens vont passer à jouer des biens, ils n'en seront jamais propriétaires. Mmh. À un moment donné, ils feront toujours appel à ces héritiers-là pour leur restituer les biens, ou bien quand ils vendent mal, ils seront toujours confrontés à des difficultés. Autant réagir à temps pour sauver les meubles.
D'accord. Alors, maître, c'est vrai que vous avez parlé des arsenaux juridiques que nous disposons pour protéger même d'ailleurs ces femmes entre griffes vulnérables. Alors, finalement, en matière alors de droits successoraux, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme matière pour protéger ces femmes?
Bon, alors, en matière de droits successoraux, je vais commencer par ce qui est intéressant. En fait, cette femme-là qui a travaillé, qui était ménagère, on va dire ménagère en termes génériques, elle s'est occupée de la maison et son travail en nature qui a quand même constitué une petite économie pour relever le niveau économique du foyer ou pour améliorer la marmite de la ménagère. À la fin de... En fait, au partage lors du décès, la loi aujourd'hui estime que si elle le veut, elle peut demander l'évaluation de ce travail-là, cette contribution, et que cette contribution soit monétarisée, qu'on convertisse en monnaie afin qu'elle puisse avoir sa part dans l'héritage. Elle peut aussi, à la dissolution de son mariage pour cause de décès, et réclamer habiter le toit conjugal pendant au moins 3 ans. Donc c'est l'indivision imposée au décès du conjoint. Donc la succession a l'obligation de lui offrir un toit. Elle peut aussi on avait parlé de l'autorité parentale qui lui est dévolue en entier en cas de décès de son conjoint sur les enfants mineurs. On a dit ça. Elle peut elle a accès au droit au bien. Ces biens vont varier selon les héritiers en présence. Donc, quand elle a un héritier, il y a un descendant et des arrière-petits-enfants de son conjoint, elle a droit au quart des biens. Maintenant, à défaut de ces descendants-là ou de descendants d'eux, et s'il y a des ascendants, père et mère, elle a droit à la moitié des biens de la succession. Maintenant, à défaut de père-mère, à défaut d'enfants ou de descendants d'eux, elle a droit à la totalité des biens lorsqu'elle présente un certificat de mariage, qu'elle n'a pas renoncé à la succession ou qu'elle n'ait pas été déclarée indigne de succéder ou qu'il n'y ait pas un divorce passé en force de choses jugées contre elle, elle peut hériter de la totalité des biens. Donc vous comprenez que dans l'ordre successoral, la veuve a une position qui exclut les frères et sœurs. Donc en réalité, ils n'ont pas d'emprise sur la succession. Donc, et puis, elle peut aussi refuser de se soumettre au rite dégradant, puisque dans l'ancien code, refuser de se soumettre au rite dégradant, aux cérémonies de voyage que vous trouvez portant atteinte à votre dignité, à votre honneur, constituait une cause d'indignité susceptible de vous exclure de la succession. Mais aujourd'hui, la loi l'interdit. La veuve a le choix de refuser, et ce refus ne peut constituer une cause d'indignité successorale. Donc, c'est une avancée. Elle peut maintenant refuser de déposer le frère, refuser de déposer le frère du conjoint, et ceci ne peut constituer une cause d'indignité successorale. Il y a bien des avantages, et au-delà, si le monsieur était un pensionnaire, il travaillait à la fonction publique, il avait une rente... une rente de retraite, où il était travaillé dans une administration privée, parapublique. Et donc, à la fin, elle a droit à une pension. Et cette pension, elle lui est allouée pendant sa vie, selon les dispositions dans le respect des dispositions qui sont qui régissent ce secteur.
D'accord. Maître, avant de bénéficier alors de tous ces avantages dont vous venez alors d'évoquer, alors il est très important quand même de prendre des dispositions. Des dispositions quand on est quand on est dans le couple, peut-être puisque on sait quand même qu'il y a les mauvais jours qui arriveront aussi. Mais finalement, quelles sont ces dispositions à prendre entre couples pour que du moins ces avantages alors soient plus bénéficiés?
Alors, il y a des dispositions à prendre. Non, réellement, on devrait même pas avoir peur de l'après. Quand vous êtes, la première chose à faire, c'est d'avoir de déposer sa femme devant l'officier de l'état civil légalement, qu'elle ait un certificat de mariage, ça la protège déjà, et que si vous pensez lui accorder un avantage qui dépasse au moins la quantité qui est disponible, qui lui est disponible, sa réserve héréditaire, vous pouvez. Et selon et un aménagement qui lui donne un certain avantage sur ses droits, pas restreindre ses droits dans un testament, vous pouvez, dans les dernières volontés, consigner que, bon, au-delà du quart qui lui revient ou de la moitié selon le régime matrimonial en face, et elle a droit en plus d'un quart qui va lui revenir selon les cas de figure. Tout à l'heure, quand on a énuméré dans l'ordre successoral ce qui revient à la dame, c'est que quelque part, quand vous voulez faire aussi une donation à un tiers, vous devez respecter cette quantité-là, cette réserve-là qui lui est dévolue au décès. Donc, elle est héritière réservataire. Voilà. Et donc, et dans les dispositions, ce qui peut l'avantager, c'est d'augmenter sa part en tenant compte de votre quantité disponible, la marge de manœuvre de disposition des biens sans entamer la réserve. Bon, donc c'est dans le testament que vous pouvez le faire. Et ce testament-là, je vous prie, je vais compléter parce que important, généralement au décès, on voit des testaments qui sont déposés à la maison, on a écrit, on remet à quelqu'un. Ces testaments-là ne valent que lorsque les héritiers sont d'accord pour considérer ce document-là comme un testament. C'est le testament qui est déposé devant et qui est reçu par le notaire, ou la forme authentique, mystique, holographe, et devant le notaire, c'est ces testaments-là qui valent. Maintenant, ces testaments qu'on retrouve sous l'oreiller
sous le lit,
bon, la veuve peut ne pas être d'accord de son application parce que d'abord, il faut le présenter au juge. Le juge, c'est lui qui va procéder.
Il faut l'authentifier.
C'est le juge qui va donc le lire. Et on ne le lit pas à la maison pour estimer que ça vaut testament. C'est une indication de volonté, une indication de partage dès que je
comprends comme ça. Maître, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire notre entretien, mais malheureusement nous tendons vers la fin, et puisqu'il y a un petit temps seulement qui nous est réservé alors pour cet entretien, mais dites-nous si vous avez un mot à l'endroit des veuves, à l'endroit des maris, même actuellement, qui sont là, et à l'endroit aussi, même d'ailleurs, de toute la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette différentes couches?
Bon, d'abord, je vais remercier Canal FM pour l'opportunité qu'ils m'ont faite pour parler de ce sujet. Et j'étais heureuse de savoir que l'émission est relayée sur toute l'étendue du territoire. C'est bravo. Et donc, par ce canal-là, on est en train de... Je demande que les gens écoutent et qu'ils le mettent en pratique ou qu'ils aient la curiosité d'aller chercher les textes qui régissent vraiment les successions, ça se trouve dans le code des personnes de la famille, et qui, dans sa version consolidée de 2022, n'est pas encore disponible. Mais néanmoins, celui de 2014 déjà qui est disponible est peut-être indicatif pour connaître les droits et que chacun de son côté puisse disséminer ce texte-là. Et à l'endroit de nos femmes, de mes mères, nous-mêmes, nos soeurs, les enfants, et surtout les filles. Et je voudrais quand même qu'elle puisse s'affirmer déjà dès le bas âge et en tant que personne digne de respect déjà, digne de respect et susciter respect, inspirer respect dans les foyers. Et pourquoi? Parce que quand vous avez des droits qui sont brimés, vous ne voyez pas l'impact social parce que c'est des haines que vous allez perpétuer à l'infini et des cassures familiales qui se perpétuent, les gens qui ne se parlent pas, mais la cause étant déjà à la base. Donc, on peut déjà remédier à ça en s'affirmant et en ne se laissant pas briller dans ses droits, donc, et puis appeler à la solidarité féminine aussi. Quand vous voyez une belle sœur qui attaque sa... une tassie, je vais dire comme ça, qui attaque sa belle sœur, c'est grave parce que c'est quand même une femme contre une femme que je veux jouer, alors que nous promouvons, non, on promet le droit de la femme en général. Donc les femmes doivent se
être
dire
solidaire.
Elles ne doivent pas aller à l'encontre des droits de leur sœur. Mmh. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc, d'accord, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et quand tu vois les droits d'une femme qui est bafouée, n'en ajoute pas. Mmh. Voilà, d'accord, solidarité.
Merci beaucoup, Maître Kadiaka et Abouniment Molga, d'être passé dans cette émission. Alors, merci à vous et ça fait plaisir alors de vous avoir dans cette émission. Et nous allons passer alors à un autre sujet. Merci et vous passez une bonne journée, madame. Et je rappelle tout simplement que vous êtes la présidente de l'association AvoAide, aide et action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité. Mais maître, une dernière chose. Peut-être alors pour surtout le contact, si quelqu'un veut vous contacter, c'est quoi le numéro?
Alors c'est le 90 04 27 41.
C'est sur ce numéro qu'on peut facilement vous contacter. Oui. Maître, merci beaucoup d'être passé alors dans cette émission. Oui. Et voilà, chers confrères, nous revenons ici alors pour notre débat alors du jour. C'est vrai que nous menons toujours le débat alors sur l'actualité, tout ce qui se passe bien sûr. Hier, c'était la journée africaine de lutte contre la corruption. Je sais que vous le savez très bien. Et donc, cette journée a été célébrée. Il y a le journal Togo Matin qui est revenu sur cette journée en parlant de Aplusia et le journal titre la Aplusia demande aux Togolais de dénoncer les cas de corruption dont ils sont témoins ou victimes. Alors Germain, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine quand on parle alors de la lutte contre la corruption, mais quand on prend aujourd'hui cette déclaration alors de la Aplusia qui demande alors aux Togolais de dénoncer des cas de corruption et aussi des gens quand même qui sont victimes, de dénoncer cela. Et finalement, on pourra dire quand même que c'est un appel qu'on doit rapidement répondre.
Oui, un appel à l'action, surtout que le thème donc, de cette célébration était la protection des lanceurs d'alerte, de ceux qui dénoncent la corruption. Et donc, c'est dans l'optique de ce thème-là que le président de Aplusia demande de dénoncer. Et la réflexion au cours de cette journée, c'était de voir comment l'État ou les États africains en général peuvent mettre en place des mécanismes pour mieux protéger ceux-là qui ont le courage ou qui ont connaissance de ces actes-là pour les dénoncer, parce que on ne peut qu'agir que quand on a connaissance de ces actes-là. Et pour avoir connaissance des cas de corruption, il faut par moment qu'il y ait de la dénonciation. Vous savez que plusieurs organismes comme NIC, on a vu dernièrement les messages du ministère de la Sécurité, et donc qui demandaient à appeler pour dénoncer au cas où peut-être des policiers ou des gendarmes raquettaient. On a vu aussi plusieurs fois au niveau du ministère du Commerce aussi des numéros verts qui sont mis en place, Aplusia en permanence, au niveau de l'ARCOP aussi pour les marchés publics, donc plusieurs institutions, de l'OTR également, voilà, plusieurs institutions donc qui sont en charge ou qui veulent lutter efficacement contre la corruption, invitent à dénoncer, mais je pense qu'il n'y a pas assez de dénonciation. Peut-être que certains ont peur. Voilà pourquoi, lors de la journée, de cette journée-là, il était question beaucoup plus de communiquer sur la protection, ou bien la nécessaire protection donc, des lanceurs d'alerte, de ceux-là qui dénoncent. Est-ce que le message sera entendu? En tout cas, on le souhaite, parce que c'est une guerre collective. Chacun doit apporter. Donc,
mais oui, jamais. Est-ce que ça ne veut pas, quand vous parlez alors des gens qui ne dénoncent pas, qu'il n'y a pas assez de personnes qui dénoncent, est-ce que ce n'est pas parce que, au fin fond, l'effet escompté, c'est-à-dire la sanction, par rapport même d'ailleurs à cette dénonciation, n'accompagne pas cette dénonciation?
Bon, il faut déjà dénoncer d'abord, pour après se dire, mais malgré nos dénonciations, rien n'a été fait. Et puis, il faut aussi dénoncer avec des preuves, des éléments de preuves, en tout cas mettre la justice sur les traces, qu'elle rassemble les preuves. Donc, vous pouvez dénoncer, et ça peut ne pas être des cas avérés. Mais si c'est des cas avérés ou si les preuves sont assez avancées, je crois que ça va se faire. Maintenant, certains peuvent dire on va dénoncer, ça ne servira à rien. Mais je crois que le contrôle citoyen nous recommande, hein, toutes les fois que nous assistons à un acte qui mérite d'interpeller l'autorité, de ne pas hésiter à le faire, donc d'aider l'autorité à travailler.
Gosson, quand on dénonce et que par après, il ne doit pas y avoir des sanctions, il ne doit pas y avoir ce qui pourra un élément de pression, ça ne serait plus encourageant de dénoncer.
Pascal, je pourrais être cru, mais je vais assumer. Quand on prend par exemple le service de la DSR, les policiers qui sont dans les rues sur les routes et qui arrêtent souvent les véhicules personnels et les taxis et autres. La dernière fois, j'étais assis quelque part pour suivre les manèges. À la fin, j'avais pris une image. Mais je me suis dit, à quoi est-ce qu'elle servirait? Quand les taxis s'arrêtent, l'agent ne va jamais au niveau du chauffeur. Le chauffeur descend et avance vers l'arrière. L'agent est derrière. Et souvent, sous le permis ou le document, il y a un billet. Et finalement, l'agent ne prend même plus le temps de vérifier les papiers du conducteur. Il tire le billet et puis la vie continue. Cet état de choses ne me fait pas croire que le sommet n'est pas informé. Le sommet est très informé.
Tout récemment, il y a le commissaire Saudi, Kossi Saudi, quand même, qui a dénoncé cela.
Il faut arrêter ces petitesses.
Pourquoi vous pensez que c'est des petitesses?
Bien sûr, quand on prend à l'Est, au Bénin, eux aussi, ils ont des agents sur les routes. Mais quand un agent arrête un véhicule et que le véhicule doit être verbalisé, l'agent verbalise et ne perçoit pas d'argent, le chauffeur va régler ça au trésor ou par numéro. Il y a un numéro sur lequel il s'acquitte de l'amende et il présente le reçu à l'agent pour reprendre ses pièces. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait des dénonciations pour prendre le problème à bras le corps. Chacun sait qu'il y a des corps, la justice, la police, pour ne citer que ces deux-là, qui sont gangrénés par ce phénomène. C'est quelle dénonciation vous voulez qu'on fasse encore au point de mettre nos vies en danger? Je pèse bien mes mots, même en matière de marché public. Sur ce plan, je ne vais pas encore avancer, mais quand le fruit sera mûr, ça finira par tomber.
Non, d'accord, quand le fruit sera mûr, ça finira par tomber. Gosson, merci. Alors, Firmin, est-ce que vous pensez aussi que la dénonciation ne serait que juste une distraction?
Non, la dénonciation, ça pourrait apporter quelque chose, une plus-value. Vous savez, au-delà de tout ça, moi je me demande si on peut arrêter la corruption dans le monde. C'est la question que je me pose fondamentalement. Quand Godson...
Vous n'y croyez pas?
Non, fondamentalement pas, parce que tous les pays sont corrompus. Écoutez, tous les pays sont corrompus. Vous n'allez pas me dire qu'aux États-Unis, il y a la corruption. Et non, vous allez voir le rapport de l'Union européenne, la corruption.
Corrompu, mais ce n'est pas une bonne chose.
Non, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que nous sommes des êtres humains, il y aura toujours la corruption. Donc il faut chercher comment... Il y aura toujours la corruption. Ne riez pas. Nous sommes des êtres humains. Le mal sera toujours là. Il y aura toujours le mal. Mais qu'est-ce qu'il faut à certains niveaux, il faut prendre des mesures. Moi, je mise beaucoup plus sur le civisme et le patriotisme. Et moi, je voudrais qu'on commence par la base. Je sais que le Togo vient de loin, mais il faut qu'on commence par la base et se donner peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans pour voir ce que ça va donner. Vous savez, en Chine, la Chine que vous voyez là, quand l'actuel président, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dans l'armée, il est allé dans les grandes familles. Parce qu'en Chine, les grandes familles et les grands officiers sont corrompus. Il a enfermé des centaines de personnes. Vous voyez? Donc, et puis c'est ça qui a fait arrêter un peu la corruption. Mais sinon, il y a toujours la corruption en Chine. Donc, moi, je me dis qu'en réalité, ça doit partir de l'école, de l'éducation. Que depuis le bas âge, qu'on enseigne tout petit la lutte contre la corruption. Que le bien public, c'est un bien précieux. Lorsqu'on vous corrompt, ne soyez pas le corrupteur, encore moins le corrompu. Vous vous imaginez. Donc, à ce niveau aussi, quand Gosson parlait tout à l'heure, moi, je me dis, c'est le chauffeur qui donne. C'est lui qui encourage la corruption. Vous imaginez, le chauffeur qui donne, c'est lui qui encourage la corruption. Donc, nous sommes tous corrompus.
Eh bien, des fois, il arrive que vous êtes à jour, mais c'est que vous êtes imposé, même d'ailleurs, obligé de donner.
Oui, vous êtes obligé de donner, mais pourquoi vous donnez?
C'est parce qu'on
pourquoi vous donnez? Vous donnez parce que vous voulez donner. Vous imaginez? Donc, des fois, il y a des gens qui peuvent peut-être bien faire leur travail. Moi, je n'encourage pas la corruption. Moi, je peins le tableau. Il y a des agents peut-être qui veulent bien faire le travail. Maintenant, on vous demande, on vous verbalise. Maintenant, vous suppliez. Des fois, il y a des gens qui sont tellement émus. Et après, à ce niveau, moi, j'encourage déjà ce que l'AA plus a fait en regroupant des corps et en les sensibilisant. Maintenant, que l'AA plus a continue dans cette dynamique-là pour pouvoir sensibiliser tous les corps. Sinon, pour le moment, l'étape où nous sommes, il y aura toujours la corruption. La meilleure solution que moi, je préconise, c'est qu'on commence par l'éducation pour se dire, dans 5-10 ans, on aura une plus-value.
D'accord. Et monsieur Kofi, c'est vrai que cette question de corruption, c'est vrai, ça existe, bien sûr, et il y a la dénonciation qui est demandée aujourd'hui par la APLUSIA, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller peut-être vers les sanctions?
Pascal, la corruption est un phénomène qui freine le développement de nos pays. Et c'est quelque chose qu'il faut sérieusement gérer. Lorsqu'on nous demande aujourd'hui de dénoncer, c'est une bonne chose. Et il faut jeter des fleurs à ceux-là qui nous demandent de faire ça. Parce que là, je me dis que c'est comme s'il y a un besoin, un désir, une volonté de mieux faire. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Si nous devons aller de l'avant, nous devons apprendre à être fermes. Fermes. En ce sens que le Seigneur donnait un exemple tout à l'heure.
Godson, il n'y a pas quelque chose de Seigneur ici.
Excusez-moi. Il donnait l'exemple...
Allez-y.
Il donnait l'exemple du taximan et puis des agents de la DSR. Ce sont des situations que moi j'ai vécues à plusieurs reprises. Est-ce que l'agent fait des efforts de verbalisation? Ou bien l'agent est juste là pour prendre le billet qui est en dessous du permis? Voilà. La question fondamentale qu'il faut se poser. Maintenant, si on nous demande aujourd'hui de dénoncer, moi, en tant que citoyen togolais, je me pose la question de savoir à quelle fin. Parce que si, par exemple, je dénonce avec des preuves et qu'il n'y a pas de punition, parce que punir, c'est important, hein, parce que ça... ça permet à ceux-là qui sont tentés de faire la même chose de ne pas le faire. Ça permet à ceux-là qui aimeraient aller dans ce sens-là de se dire, ben voilà, j'ai vu l'autre-là être puni, je ne pourrais pas faire la même chose. Mais quand on a vu que monsieur a fait quelque chose de mal, B a fait quelque chose de mal, C a fait quelque chose de mal, et qu'il n'y a pas eu de punition, on n'a pas ce courage-là de dénoncer pour que, bon voilà, ça me donne rien.
Finalement, ça devient une règle si on ne punit pas. Alors, nous sommes rejoints par Thierry Afanoukoué. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous.
J'espère que tu vas bien.
Je rends grâce à Dieu.
Alors, nous sommes en train de parler de la corruption où la APLUSIA demande alors qu'on ait plus de dénonciations. Est-ce qu'avec la dénonciation, ça peut éradiquer totalement la corruption?
Bon, éradiquer, ça serait peut-être difficile, mais limiter. Vous savez, à un moment donné, les gens ne vont plus dénoncer dans ce pays, parce que beaucoup ont déjà dénoncé, preuve à l'appui, mais ça n'a rien servi. Donc, qu'on continue de demander aux gens de dénoncer ou d'alerter, et qu'après, ça ne sert à rien, je ne crois pas que les gens auront encore cette volonté de le faire. Je crois qu'on a suffisamment sensibilisé dans ce sens. Maintenant, il faut tirer les oreilles à ceux qui adorent cette pratique-là. Il faut mettre fin à ce genre de choses. Gosson a effleuré tantôt les marchés publics et les policiers. La justice, c'est des réalités. Celui qui va même sensibiliser, il a des dossiers sur sa table, avec des preuves à l'appui. Mais il est temps qu'on puisse traduire ces personnes-là devant les tribunaux. Comme ça, les gens vont s'aligner. Au Bénin, ici, il n'y a pas de jour où on ne parle de criette. Vous déconnez, on vous prend. Et ça a amené un peu de sérieux. Et ce pays est en train de se construire. Mais quand chez nous, des gens posent des actes qui freinent le développement de notre pays, des journalistes ou d'autres structures signalent cela, qu'est-ce qu'on constate par après? C'est qu'on fait la promotion de ces personnes. Donc, quand c'est comme ça, on a l'impression que la corruption est érigée en mode de gouvernance chez nous. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, vous avez vu récemment, on a encore déployé de jeunes policiers. Mais quand vous analysez un peu leurs attitudes dans la circulation, vous sentez que les gars là, ils sont beaucoup plus présents pour avoir de quoi remplir les poches que de réguler la circulation, sauf pourquoi on les a déployés sur les différentes routes. Donc c'est un réel problème. Et puis nous autres, la corruption au niveau de l'administration, la lenteur administrative a fait que combien de fois les gouvernants n'ont pas dit qu'ils vont mettre fin à ces choses-là. Mais ça fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une administration pour un document, vous-même, si l'agent ne vous demande rien, du moment où vous voulez avoir dans le temps le document, vous-même, vous glissez quelque chose.
Mais donc, vous participez alors à la corruption.
Oui, mais non seulement on participe. Je donne un autre exemple. Quand les militaires ou les policiers, ils vous arrêtent en circulation ou au cours des patrouilles et que vous présentez tous les documents, tout est en règle. Mais quand ils n'ont rien à dire, ils vous demandent, mais il fait nuit, il fait froid. Et il faut nous aider à prendre le café. Donc tout cela aussi nous révèle que le traitement, la rémunération que les gens ont à la fin du mois ne les permettent pas de vivre aisément.
Donc, merci Thierry. Rapidement.
Non, il y a un truc que parlant de dénonciation, vous savez, je ne voudrais pas, je ne fais pas l'apologie du mal, mais je me dis que le Togo n'est pas un pays particulier. Le Togo n'est pas un pays quoi. Le Togo est loin d'être un pays particulier. Vous savez, moi, je veux parler des grandes puissances. Il y a un exemple, quand je suivais un documentaire, vous savez, on a mis au Mexique, je parle de Mexique et États-Unis, on met la main sur un cartel. On a pris un jeune. Le jeune, il commence pas à dénoncer, il commence pas à appeler les noms. Donc, on a fait, il a cité certains des officiers américains. Donc, on a fait une réunion au Mexique et on a fait venir les officiers américains. Donc, le jeune a dit qu'il connaît assez de personnes qui sont au niveau des officiels, qui sont impliqués dans des histoires de drogue. Et maintenant, après la réunion, les officiels sont partis. Le jeune est maintenu en prison. Et après, celui-là qui parlait, qui relatait l'affaire, il a dit après, il a appelé ceux-là qui avaient participé à la réunion, qui sont américains. Ensuite, il les a appelés, il a dit, mais et la suite de ce qu'on s'est dit ici, mais on vous a cité un certain nombre de noms. C'est la première chose. Et le gars poursuit en disant que, à l'heure où je vous parle, au téléphone, c'est ce qu'il disait aux officiers américains, à l'heure où je vous parle, il y a assez de choses anormales qui traversent la frontière Mexique-États-Unis. Vous savez ce que le gars a dit? Il dit, le gars dit, non, vous savez ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Il est en train de dénoncer que c'est ce qui s'est en train de... À l'heure où on parle, il y a la drogue qui est en train de traverser, qui part du Mexique pour les États-Unis. Mais vous devez réagir. C'est la corruption, ce que vous êtes en train de... Il dit, non, au niveau des officiels, le gars dit, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, deuxième chose, quand on dit que on prend de l'argent partout sur nos routes, tout ça, vous savez, ça se passe en France régulièrement.
Mais ça, c'est pas une bonne chose.
C'est pour dire, moi, en réalité, oui. Quoi qu'on puisse dire, on va juste freiner. On va juste faire baisser le taux. Mais la meilleure des choses, c'est d'insister sur le civisme et le patriotisme depuis la base. Sinon, on aura toujours ça.
D'accord. Germain, finalement, c'est quoi le problème que nous avons quand peut-être il y a des dénonciations, mais on ne punit pas?
Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des dénonciations et on ne punit pas? Vous savez, il y a eu de grandes dénonciations qui ont été faites dans ce pays. Alors, je te donnerai un exemple. On nous disait qu'on a détourné, par exemple, 400 milliards destinés à l'achat du carburant, par exemple. Mais vous verrez que celui qui était mis en cause a même porté plainte pour diffamation. Est-ce que finalement, il y a un détournement ou pas? Après, on vous dira, il n'y a jamais eu de l'argent destiné à l'achat du carburant dans le budget et qu'on n'a pas détourné. Maintenant, est-ce qu'il y a eu malversation ou pas? Tout ça, c'est assez complexe. Maintenant, est-ce que nos juges sont assez courageux pour faire le boulot? Par moment, on dit non, parce qu'il y a des cas où les procureurs auraient pu se saisir pour fouiller. Parce que quand on dénonce, c'est ce que je disais au départ, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a corruption. Maintenant, après, le vrai problème, c'est que nous tous, malheureusement, nous sommes corrompus. Voilà, ce Thierry disait quelque chose d'intéressant. Vous allez dans une administration, vous donnez de l'argent pour un service pour lequel vous ne devez pas donner. C'est vous-même l'acteur de la corruption, c'est vous qui provoquez. Vous allez, on vous arrête, vous n'êtes pas en règle dans la circulation. Ce n'est pas le gendarme ou le policier qui vous demande de l'argent. C'est vous-même. Et même dans nos familles, quand on nomme quelqu'un à un poste, nous sommes ceux-là qui lui disent « Ah, mais on l'a mis là-bas pour profiter ». Quand on dit « On l'a mis là-bas pour profiter », ça veut dire quoi? Et vous voyez des gens occupés des postes, on dit « Mais toi, tu es allé à la retraite, tu as travaillé ici, c'est que, mais c'est pas normal. » On trouve que ce n'est pas normal qu'ils finissent pauvres. Ça veut dire que nous-mêmes, si nous étions là-bas,
voilà,
on va le faire. Donc, je crois que c'est peut-être déjà très tôt qu'il faut qu'on nous travaille tous. Moi, quand on parle de la presse, la dernière fois, j'étais à une formation en 40 pour les élections. On dit aux journalistes, vous allez couvrir, il ne faut pas prendre de l'argent. Après, je dis, mais ça, on nous a enseigné ça. Moi, ça fait une trentaine d'années qu'on m'a enseigné ça. Mais est-ce que c'est toujours valable? J'étais avec un doyen, je dis, bon, moi, je suis contre. Qu'on dise aux journalistes que quand on lui donne l'argent, qu'ils ne prennent pas. Parce que ça, c'est l'idéal. Mais dans la réalité, bon, je suis contre que les gens réclament de force l'argent, mais quand on vous le donne, ce que vous n'allez pas prendre, tout le monde, toute la société est un peu comme ça. Hein. Donc maintenant, après, on s'appuie sur nos sorts. Mais moi, je crois qu'il faut beaucoup combattre les grands détournements, parce que nous parlons que des mini-fruitains, hein, là où les milliards sont détournés, là où ça pèse sur le PIB.
Oui, mais c'est dans là, est-ce que ça ne doit pas être quand même une décision au niveau du sommet, quand vous parlez alors des grands détournements?
Non, quand je dis, mais si nous tous sommes au sommet, on va détourner, puisque déjà nous avons ces idées. Oui, c'est ce que je disais, quelqu'un qui pense déjà qu'on t'a mis là-bas pour manger. Ça veut dire que demain, quand lui-même sera là-bas, il voit son grand frère en le nom à un poste, il te dit là, c'est bon, c'est pour. Donc, vous voyez, ça veut dire que nous-mêmes, à la base, si on nous met là-bas, on fera ce qu'on dit aux gens qu'ils doivent faire. Et tout le monde, hein, c'est vraiment un problème sérieux. Maintenant, il faut punir ceux qui détournent gros pour décourager. Maintenant, après, c'est comme la prostitution, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est des vices qui vont toujours exister, mais de temps en temps, il faut punir pour freiner et faire peur.
D'accord. En fait, alors, c'est mon avis. Oui, nous allons quitter le sujet rapidement pour parler de cette réaction de la CEDEAO par rapport même d'ailleurs aux législatives au Togo et aussi au changement alors de la nouvelle, enfin au changement de la constitution, c'est-à-dire par rapport à la nouvelle constitution au Togo. C'est vrai que tout récemment, c'est-à-dire le dimanche dernier, lors du sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements au niveau de la CEDEAO, il y a le communiqué final qui nous a signifié quand même que la CEDEAO félicite le Togo par rapport à l'élection et aux élections législatives et aussi par rapport au changement alors de la constitution. Mais Gosson, c'est vrai que ça a suscité même d'ailleurs des réactions au sein de la classe de l'opposition et on se dit cette CEDEAO ou la CEDEAO devait peut-être alors dire autre chose à part ce qu'elle a dit.
Bon, ce cas, la réaction de l'opposition, je n'en sais pas trop, mais je m'exprimerai à titre personnel.
Oui.
Quand, avant les législatives et les régionales, avant même que le rapport de l'OIF ne sorte, notre pays a participé au budget de l'OIF. Naturellement, le rapport qui devrait sortir sur notre pays ne pouvait pas être négatif. Maintenant, quand c'est notre pays qui joue à ce jour le pont entre la CEDEAO et l'AES, je vois mal comment une action entreprise au Togo pourrait être critiquée par la CEDEAO. C'est mathématique. Puisque c'est sur nous que cette CEDEAO se base pour tenter le rapprochement avec les États de l'AES. Vous allez encore oser me critiquer alors que c'est moi qui suis le pont. Je vous vois mal arriver. Voilà, comprenne qui pourra.
D'accord. Firmin, vous avez compris la logique de la CEDEAO?
Non, la logique est très simple. Vous savez, des fois, quand on parle de modification de la Constitution et puis on demande à la CEDEAO de réagir, moi, je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'en réalité, la modification de la Constitution, ça relève de la politique très, très, très interne, très intérieure. Si, par exemple, un État se dit, moi, je veux me doter d'une nouvelle Constitution, en quoi est-ce que la CEDEAO peut s'y opposer? Parce qu'un chef d'État qui est là, il se dit, ben, avec des enjeux, avec tout ce qui se passe, moi, je veux qu'on modifie la Constitution. Ou par exemple, un certain nombre de députés se dit, mais moi, je propose qu'on modifie la Constitution. En quoi est-ce que la CEDEAO peut s'y opposer? En réalité, si la CEDEAO s'y oppose, peut-être ça crée quelque chose de bizarre.
Et il y a le protocole additionnel de la CEDEAO.
Il y a, c'est bizarre. C'est par rapport... c'est dans un domaine précis. Mais la CEDEAO, systématiquement, ne peut pas s'opposer aux modifications de la Constitution. En quoi que, bon, en tout cas, moi, je dis juridiquement, qu'est-ce que le Togo a fait de mal? C'est la question que je me pose. Juridiquement, qu'est-ce que le Togo a fait de mal? Peut-être les politiques peuvent critiquer. Mais si peut-être les Togolais, il y a des Togolais, je dis des Togolais, peut-être deux Togolais même, peuvent se dire, moi, je veux qu'on aille à une nouvelle Constitution, à un nouveau régime. Il n'y a rien dit, les gars, parce que la Constitution le prévoit. Il y a la Constitution qui dit un cinquième des députés, il y a la Constitution qui dit aussi que l'initiative peut venir du président de la République.
Mais ça, il doit y avoir aussi une adhésion populaire.
Il doit y avoir aussi...
Et c'est ce que les gens demandent, oui, par référendum.
Oui, par référendum, je suis d'accord. Et par exemple, ceux qui ont eu, émis l'idée ou la tête, a choisi la voie de la consultation, où les députés sont descendus sur le terrain. Voilà, c'est pour corriger un peu peut-être ce qu'on leur a reproché. Mais en gros, bon, comme quelqu'un le dit, c'est pas une avec une constitution qu'on va construire des ponts, qu'on va construire de grandes bâtisses. Mais la meilleure des choses qu'on veut, c'est la bonne gouvernance, que les Togolais mangent à leur faim.
D'accord. Thierry, vous avez été surpris par cette sortie de la CEDEAO sur les législatives et surtout la question de la nouvelle constitution au Togo?
Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris. La CEDEAO dit prendre acte du changement constitutionnel. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Mais il y a des contestations jusqu'alors.
Oui, vous savez, et la CEDEAO, depuis qu'elle s'est mélangée les pédales par rapport au Burkina, le Niger, le Mali, et peut-être même la Guinée, elle est prudente. Elle avance les freins en main. Donc, elle ne voudrait pas plus peut-être entrer en conflit entre guillemets avec un autre pays aussi important que le Togo, quand on sait que le chef de l'État Faure Gnassingbé joue un rôle prépondérant dans la résolution de la crise entre ces pays-là et la CEDEAO. Donc d'abord le chef de l'État togolais n'y était pas. Et la CEDEAO,
il s'est fait représenter
et la CEDEAO sort qu'il prend acte par rapport aux élections. Elle a salué tout ce qui s'est passé et demande aussi à ce que les différentes parties prenantes puissent continuer les discussions, le dialogue pour la préservation de la paix dans notre pays. Maintenant, à l'intérieur, ça c'est ce que la CEDEAO a dit. À l'intérieur, jusqu'à l'heure où nous parlons, certains sont toujours contre ce qui s'est passé. Malheureusement ou heureusement, cette constitution a été promulguée avec... un moratoire d'un an, et nous tous on voit que aujourd'hui le pays est plus ou moins bloqué, parce que ici même dans ce studio, la dernière fois quelqu'un disait que nous sommes toujours dans la 4e République, l'autre disait que nous sommes dans la 5e. Donc
on ne se retrouve pas.
On ne se retrouve pas.
D'accord. Monsieur Kofi, alors finalement, est-ce que c'est pour se soustraire alors de peut-être des critiques alors du Togo que la CEDEAO a tenu plutôt alors des propos diplomatiques?
Moi, je dirais que la CEDEAO est en train de caresser le régime dans le sens du poil, au nom de ses intérêts. Je ne vais pas aller plus loin dans ce sens, mais je vais plutôt aller du côté de l'opposition togolaise. Je vais dire des choses qui vont peut-être vexer des gens, mais je vais l'assumer. Écoutez, Moi, j'ai toujours été scandalisé par cette attitude de résignation de l'opposition togolaise qui, à chaque fois, pense que, bon, voilà, la solution à nos problèmes viendra de l'extérieur. Vous voyez, dans les pays qui ont connu des changements importants, la solution n'est jamais venue de l'extérieur. Ça vient toujours de l'intérieur. C'est une paresse politique pour l'opposition togolaise de toujours espérer qu'une organisation extérieure viendra résoudre nos problèmes. Il faut qu'on arrête ça. Je pense que ça suffit. Il faut qu'on arrête ça et qu'on mette un peu du sérieux dans ce que nous faisons. Lorsque vous êtes opposant, les espoirs de la population sont sur vous. Mettez-vous au travail. Réfléchissez. Demandez-vous, posez-vous des questions. Comment est-ce qu'on peut faire?
Est-ce que l'opposition togolaise ne fait pas assez?
Pour moi, non.
Ah bon?
Elle est dans la résignation, elle est dans la paresse politique.
D'accord. Tout simplement. Oh, ok, Jamais Poli, justement, c'est votre avis, hein, Monsieur Kofi. Oui, Jamais Poli, la CEDEAO a réagi, oui, sur cette question lors de changement de constitution. Vous avez été surpris par rapport à ce communiqué de la CEDEAO?
Non, je n'ai pas été surpris. Moi, j'étais un peu surpris que la CEDEAO se prononce plutôt sur cette situation.
Quoi, elle devait se taire?
Parce qu'elle a envoyé une mission observer les élections ici, la dernière fois en avril, avec les conclusions qui ont rejoint les autres missions d'observation internationale. Donc pour moi, c'était bouclé. Mais je pense que après, quand il y a eu cette manifestation sur le terrain à Kassimé, juste à côté, j'ai vu une banderole où on interpellait la CEDEAO. Je crois avoir un genou, je ne sais pas qui tenait ça. Et peut-être que la CEDEAO s'est sentie obligée de se prononcer. C'est pour ça que Thierry le disait. Elle prend acte après, elle appelle les partis au dialogue. C'est toujours pour dire, même s'il y a des petits soucis dans un pays, il faut dialoguer. Mais après, elle ne peut pas se prononcer sur ce qui s'est passé au Togo, ce changement de régime. C'est fait de façon légale. Et la CEDEAO n'a pas grand-chose à dire. Peut-être, je me disais, peut-être c'est le seul pays de la CEDEAO finalement qui a adopté le régime parlementaire. Est-ce une nouveauté? Si c'était pour ça qu'ils en parlaient, peut-être je serais intéressé. Mais maintenant, si c'est en réponse à la manifestation qu'il y a eu dernièrement, qui a été totalement un échec tout simplement parce que les militants ne veulent plus de ces solutions... Donc, je n'ai pas compris cette sortie de la CEDEAO sur une question interne qui est réglée de façon assez légale. Il n'y a plus, c'est déjà dans le passé maintenant.
Juste un mot, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant ou avant les élections. Il y avait une commission de la CEDEAO qui était arrivée au Togo.
Tout à fait.
Il y avait eu premièrement un communiqué. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Il y a Volkface, il y a un autre communiqué qui est sorti. Tout cela, ça en dit long sur peut-être le poids de notre pays dans les prises de décision de cette organisation sous-régionale. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais ça en dit long.
Ok, merci. Alors, ça me donne la transition hein, pour parler de la CEDEAO et l'AES. Et Gosson, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la CEDEAO qui est en difficulté par rapport même d'ailleurs à cette sortie hein, de ces trois pays du Sahel. Il s'agit alors du Burkina Faso, du Mali et du Niger. On connaît leur statut aujourd'hui. Aujourd'hui, avec leur premier sommet hein, organisé le samedi dernier, finalement, ces trois pays forment une confédération. Est-ce que ces trois pays ne vont pas trop loin pour ne plus revenir à la maison de la CEDEAO?
C'est quoi tu mets dans trop loin? Quand un pays décide pour ses intérêts de se rapprocher d'un autre, quand bien même ils appartenaient, c'est l'imparfait qui vaut le coup, ils appartenaient à une communauté. Attendez, le monde, c'est, n'est-ce pas De Gaulle qui disait « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts ».
Tout à fait.
Mais si ces trois pays se trouvent des intérêts, en quoi est-ce que leur regroupement doit donner des indigestions à la CEDEAO au point que cette dernière... Ça, se permettent de brandir des menaces comme quoi demande de visa, comme si il n'y a que les pays, les habitants de ces trois pays dans les autres pays de la CEDEAO.
Officiellement, ça n'a pas été dit, hein, ça n'a pas été écrit, surtout pour ce qui concerne alors la demande de visa.
On ne l'a pas lu en filigrane.
Non, pas dans.
Il n'y a pas eu de menace dans le communiqué. Il n'y a pas eu de menace. Plutôt que, par exemple, ce que. Par rapport à ce que Boni Yayi et Soglo ont entrepris envers le Niger pour le rétablissement des relations diplomatiques. Moi, j'aurais aimé que la CEDEAO, en coulisses, approche ces pays-là, c'est-à-dire qu'on fasse table rase du passé, parce que autant vous n'osez pas vous ingérer dans les affaires d'un pays, mais autant vous êtes les premiers à mettre votre bouche dans les affaires des autres. Au nom de quoi? Quand même.
D'accord. Voilà, Fémin, c'est vrai que finalement, c'est le chef de l'État togolais et son homologue du Sénégal qui ont été désignés pour les négociations, hein, pour que du moins ces trois pays reviennent à la maison, c'est-à-dire dans la CEDEAO. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas un travail très difficile, voire impossible, alors pour ces deux présidents?
Bon, je ne dirais pas impossible, parce que on me tâche souvent d'être pessimiste. Je sais que ça n'a pas donné grand-chose, hein. Ça n'a pas donné grand-chose, parce que vous avez dit tout à l'heure, ces poutistes-là, ils vont déjà trop loin. Bon, quand on choisit Fonia Singbe et Diomaye Faye, c'est l'aîné et le Benjamin. Par exemple, Fonia Singbe, lui, est un expérimentant du de la région. Diomaye Faye, parce qu'il venait d'arriver et il a eu à approcher ces poutistes-là. Mais ce que moi, je souhaiterais, c'est que la CEDEAO laisse ces poutistes-là aller, continuer leur route. Que la CEDEAO ne s'y mêle pas. Ils n'iront nulle part. Ces poutines diront, ils vont aller où?
Avec la détermination.
Non, ils vont aller, une seconde, ils vont aller où? Ils vont se développer? Ils vont pouvoir se développer? Ils vont se développer avec quoi? Parce qu'ils ont des matières premières. Aujourd'hui, le monde a quitté les matières premières. Les Occidentaux ont quitté les matières premières. On est dans l'espace. On est dans la technologie. Je vais vous donner juste un petit exemple. Un petit exemple. Vous savez, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire vend le cacao. Un kilo de cacao, c'est 7 euros. Donc, quand en France, par exemple, on prend ce cacao-là, on revient vendre la tablette de chocolat à la Côte d'Ivoire, c'est quand 8 euros par kilo. Ça veut dire qu'on prend un kilo comme ça, on va le travailler avec une certaine industrialisation, avec des machines, avec de l'expertise, avec la technologie. Ça veut dire que les gens sont trop loin. Donc nous, nous sommes toujours à l'étape de matière première. On n'ira nulle part. Pour conclure, au niveau du Mali actuellement, le délestage est criard au Mali. Les produits de nécessité, les produits de première nécessité sont en train de manquer cruellement. Le sucre, le lait, ça manque cruellement. Ils n'iront nulle part. Donc, la CEDEAO, moi, je souhaiterais que la CEDEAO et la CEDEAO qui les laissent tranquilles.
D'accord. Thierry, vous avez aussi l'impression qu'ils n'iront nulle part?
Non, pas comme Firmin le dit. Mais moi, je voudrais revenir sur cet aspect de la chose. Moi, je ne comprends pas, hein, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on a secondé Fonia Singbe et Diomaye Faye à Fonia Singbe dans cette crise-là. Parce que cette façon de faire-là, pour moi, ne contribue pas véritablement à résoudre le problème. Parce que, pourquoi je le dis? Et d'abord, quand vous êtes deux médiateurs sur une crise donnée, il se peut que les deux médiateurs en question n'ont pas la même stratégie de travail. Mmh. Ils vont mettre un temps fou pour travailler sur une feuille de route commune avant d'aller pour la résolution de la crise. Fonia Singbe, le monsieur, il connaît déjà le dossier. Il s'est beaucoup investi là-dedans. Mais pourquoi on veut lui... Je ne sais pas, c'est
pour
diminuer... Bon, je ne sais pas, personnellement, je ne comprends pas. D'accord. Il fallait le laisser et le monsieur, bonnement, il va continuer ce qu'il est en train de faire et peut-être il y aura un terrain d'entente, il y aura un rapprochement.
Mais est-ce que
parce
ça
que ces pays-là, ne jurent aujourd'hui que par Fonia Singbe. Ça, c'est une réalité. Donc, il fallait, s'il y a au moins, et Fonia Singbe a travaillé à ce qu'il puisse avoir cette confiance-là entre ces pays et le Togo. Vous avez vu quand la crise entre le Niger et le Bénin a commencé, vous avez vu qu'il y a un peu de choses là, le Togo subtilement s'est encore positionné. Donc, le mieux, c'est de laisser le chef de l'État togolais continuer sa mission, alors que le Sénégalais, le discours qu'il tient n'est pas le même qu'on tient ici à Lomé.
Ok, merci Thierry. Alors, Kofi, finalement, quelle analyse alors vous faites alors de cette situation dans le Sahel et aussi avec surtout la CEDEAO?
Pascal, je pense que la CEDEAO continue de se ridiculiser avec cette attitude paternaliste qu'elle démontre aux yeux de nous tous. Écoutez, vous avez des femmes, vous avez plusieurs femmes. À un moment donné, trois de ces femmes décident, bon voilà, et nous pensons que le mariage ne pourra plus continuer, nous allons sortir.
et nous allons nous unir pour protéger nos intérêts. Alors, si vous avez à quelques reprises essayé de les faire revenir à la raison et que ça n'a pas marché, mais laissez-les. Laissez-les. Mais là, on nous donne comme l'impression que ce n'est pas la CEDEAO qui agit, mais qu'il y a des gens derrière la CEDEAO qui poussent la CEDEAO à faire revenir ceux-là.
Et c'est ça l'impression ?
Bien sûr. Bien sûr, c'est l'impression qu'on nous donne.
Et parce que nous sommes qui pourrait être derrière ?
Je ne dirai rien.
D'accord. jamais. Voilà cette situation. Surtout avec les deux médiateurs choisis, Fonia Singbe et Diomaye Faye. Finalement, est-ce qu'ils peuvent réussir ce travail? Surtout qu'on connaît la position aujourd'hui de l'AES ou de la Confédération.
C'est un travail très, très difficile. Hein. Ben, je pense que le président togolais est une sorte de magicien pour la CEDEAO. Hein. Vous avez vu dès le début comment il a réussi à faire libérer les militaires ivoiriens alors que les Maliens avaient dit niet, même à l'ONU. Donc, c'est une prouesse sur laquelle la CEDEAO compte aujourd'hui. Et déjà, il y a le cas de Bazoum qu'il fallait libérer avec sa famille. Fonia Singbe a réussi à faire libérer le fils Bazoum qui a séjourné un temps ici au Togo avant de partir. Et donc, aujourd'hui, la CEDEAO lui donner l'assistant magicien, si vous voulez. Mais ce que Thierry disait, je pense qu'en réalité, la CEDEAO veut se rattraper parce qu'elle a mal géré le dossier sénégalais et elle était pour Macky Sall, qui a finalement perdu la bataille. Il faut amadouer Diomaye Faye,
le nouveau
parce
président.
Que il sait que tous les deux présidents...
Vous vous rappelez qu'il y avait une mission, à Niamey ou quelque part, un chef d'État n'était pas disponible, alors que l'autre... C'est comme c'est le ministre Doucet et un autre ministre des Affaires étrangères d'un autre pays qui devrait se rendre à Niamey pour cette même crise-là, mais un n'était pas disponible. Et Doucet s'est rendu
seul.
J'avais 30 secondes.
Je crois que c'est une mission quand même très très difficile, mais du moins Faye, lui, on veut le ramener dans la famille. Il va apprendre, mais ça va être très difficile parce que les Maliens sont décidés, le Premier ministre malien l'a dit, et lors de leur réunion donc à Niamey, ils ont dit que c'était un chemin de non-retour.
D'accord, merci beaucoup.
Mais l'impossible pas togolais. D'accord. Je pense qu'ils ont encore des intérêts au sein de la CEDEAO.
Merci beaucoup, Germain. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner aussi la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 et le 91 36 63 75 pour réagir. Alors dans cette émission Club de la Presse d'aujourd'hui, premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
C'est Pélé?
Oui, c'est Pélé.
Ah d'accord, Pélé, allez-y.
Ok, je salue le plateau. Bon, pour les AES... tout à l'heure, Firmin disait qu'ils n'iront pas loin. Mais je ne vois pas là où ils n'iront pas loin. Au moment où Firmin tout à l'heure a donné un exemple de la Côte d'Ivoire de cacao, qu'on achète le cacao 1 franc et que ça va en France, que ça revient, et que ça, on revend ça cher. Mais la technologie là, les AES là, ne peut pas en avoir. Chez les Chinois, chez les Ukrainiens, partout. Ce n'est pas la France seule qui peut aider l'Afrique. Mais c'est que le problème est très simple. Il faut qu'on commence par quelque chose. Il faut qu'on commence quelque part à voir comment, si nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. C'est ça qui est l'essentiel. 60 ans, 65 ans d'indépendance, il faut qu'on évolue, c'est tout. Je voudrais parler de la Prussia. Donc, on a dit que la Prussia a dit de dénoncer. Mais je pense que le chef de l'État a déjà dénoncé qu'il y a une minorité qui s'accapare à la richesse du pays et qu'à l'administration, on fait la surfacturation. Si le pouvoir exécutif dénonce, qu'en aura-t-il la population pauvre? Le pouvoir, celui qui a le pouvoir exécutif, il dénonce. Maintenant, on dit d'être dénoncé. Si on dénonce, ça va faire quoi? C'est le sens. Parce qu'il y a une piste déjà qui est là pour que la PCA servisse cette piste-là et fait son travail. C'est d'aller voir le chef de l'État où se trouve la minorité qui s'accapare la chef du pays et qui sont ceux qui font la surfacturation. C'est tout. Mmh. Je pense que tout ce gaspillage qu'ils sont en train de faire avec l'argent là, c'est ça qui est mauvais. Sinon, pour la Gabésie, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit ça là-bas. Au Bénin, c'est avec la PCA là, de le même PCA que le talent est en train de travailler, c'est tout.
D'accord.
Parce que le sabotage économique là, on voit que les gens pillent l'argent, on les arrête pas. C'est promotion sur promotion.
D'accord. Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. Et Thomas nous annonce que c'est seul 91 36 63 75 qui fonctionne. Et donc, vous pouvez nous appeler sur le seul numéro 91 36 63 75. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Kofi.
Oui, voilà.
Voilà. Allez-y.
Je renchéris ce que celui qui précède vient de dire. L'organe qui me demande de faire des dénonciations. On fera des dénonciations et après, il viendra nous dire que non, ils se sont trompés, que c'est pas ça, ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Il a tous les appareils, tout et tout, pour faire ses enquêtes lui-même. C'est pas à nous de dénoncer. Il a tous les leviers pour faire son travail. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, pourquoi il est là encore? Faut dissoudre cela. Si c'est à nous de dénoncer, qu'on nous mette un numéro et puis nous allons appeler à qui de droit? Mais, sincèrement,
Merci beaucoup.
C'est à revoir. Hein.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et réagir au club de la presse de ce vendredi. 91 36 63 75. 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô, bonjour, le plateau.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va.
Oui, ça va. Votre nom, c'est?
Oui. C'est Monsieur Latif.
Monsieur Latif, vous nous appelez de quel quartier?
Pardon?
Oui, vous nous appelez de quel quartier?
Agoué,
allez-y.
C'est pour intervenir un peu par rapport à ce que Monsieur Lef vient de dire aussi. Pour l'AF, nous irons plus loin avec leurs produits, tout ça là. Mais les Occidentaux ont besoin de ces produits. C'est pourquoi ils ne sont pas partis de l'AF. Ils ont besoin de ça. Ils vont se développer avec ça. Avec ça, ils auront toutes ces machines-là pour habiter beaucoup de choses. Vraiment, il ne faut pas dire qu'ils n'auront pas droit avec ça. Ça, franchement, c'est avec ça qu'ils vont se développer. Là, s'ils savent que ces produits ne les intéressent pas, donc ils n'ont pas de danger. Voilà. Mais par rapport à mes doutes, je vais vous parler de quelque chose de très bien. Je ne sais pas où dire, pardon. Dans notre pays, il y a trop de l'hôpital. Vous pouvez nous aider avec ça pour que le gouvernement se prenne acte de ce phénomène-là.
Je ne parle pas de faute,
mais il y a trop de difficultés. Peut-être qu'il y a un pays, on ne prend plus. Peut-être que c'est bien d'utiliser. Franchement, faites quelque chose pour nous par rapport. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Latif. Nous avons eu du mal à écouter la dernière partie de votre intervention, surtout quand vous interpellez le gouvernement. Sincèrement, nous avons eu du mal à écouter cela. Voilà, 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, merci pour les informations sur les œuvres. L'acte notarial sorti au-dessus du mur n'a pas de valeur. La corruption. Merci pour les différents dangers soulevés par les journalistes. Au lendemain du sommet de la CEDEAO, au journal Afrique de TV5, ils vont parler des suggestions du président du Sénégal. Je m'en fais pour la crédibilité de la CEDEAO. Un faux
faut pas que la CEDEAO soit sous l'influence des puissances occidentales. Deux, ne pas modifier les constitutions pour rester indéfiniment au pouvoir. Trois, faut que les pays de la communauté respectent les décisions de la justice de la CEDEAO. Vivement que ces suggestions soient prises en compte par les pays pour la crédibilité de la communauté. Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance appelle toute modification de la constitution à 6 mois d'une élection sans processus. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. 91 36 63 75. C'est à travers ce numéro que vous pouvez réagir au club de la presse de ce vendredi. 91 36 63 75. 91 36 63 75. C'est à travers ce numéro que vous pouvez nous appeler et intervenir dans l'émission club de la presse. Allô?
Allô, oui, c'est la petite rédaction.
Oui.
Vous avez dit que vous n'avez pas compris quand il a interpellé le gouvernement
oui,
par rapport à mon intervention.
Oui, oui, allez-y.
Oui, je voulais juste faire appeler au gouvernement de ce qu'il faut pour nous. C'est-à-dire qu'il y a trop de vestiges d'argent dans le pays. Quand l'argent est payé, on le retire. Le bien est payé. Tout un bien à la banque, pour qu'il le fait des achats, on dit que l'argent n'est pas bon. Vous voyez,
on a des billets usés, c'est ça? D'accord, merci. Ok. Et merci beaucoup, Latif. 91 36 63 75, nous allons avoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. 91 36 63 75. 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi. Allô?
Oui, oui, c'est Kofi qui revient.
Oui, Kofi.
Oui. Pour revenir sur l'AES, moi je dirais qu'ils n'iront pas loin. Parce que d'autres l'ont fait avant eux. Ça n'a pas abouti. Et ça n'aboutira pas. Hein? Parce que c'est pas la démocratie là-bas. Hein? Parce que nous qui sommes là à dire oui, vive le Mali, vive le Niger, tout ça. Et c'est la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Ça n'ira pas loin. Hein? Ça n'ira pas loin. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, mon cher ami Kofi, pour votre intervention. Et voilà, je pense que votre intervention met fin à la partie à l'heure des manifestations téléphoniques à l'heure de cette émission. Et donc, nous revenons en plateau, chers confrères. Nous avons écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Et c'est le principe de l'émission. Nous donnons toujours la parole aussi aux auditeurs de participer à cette émission avec nous. Gosson, vous avez écouté les uns et les autres, c'est quoi votre réaction?
Bien. D'abord, par rapport au dernier intervenant qui dit que ça n'ira pas loin, ça n'ira pas loin. C'est assez facile pour chacun de dire ça ira loin ou ça n'ira pas loin. Encore faut-il que la personne argumente, si tant est qu'elle est dans le secret des dieux. Ça, je passe. Pour parler des lanceurs d'alerte, cette histoire me matrice à chaque fois que j'y pense. Quand un juge convaincu d'avoir pris de l'argent, soit dit en passant, il y a des juges au Togo qui font leur travail de façon très professionnelle. Je peux vous en citer.
Et il faut les apprécier.
Et leur rendre hommage. Mais quand un juge prend de l'argent, et libère des prévenus qui devaient passer en audience. Et que toi, le journaliste, tu te permets de mettre ça sur la place publique. Le juge porte plainte devant le procureur de la République. Et la brigade de recherche et d'intervention t'interpelle pour te demander si tu as suivi la procédure avant d'écrire ce que tu as écrit.
C'est quoi la procédure?
Tu arrives, c'est-à-dire si tu as tendu le micro au juge et que toi tu arrives à montrer les preuves.
Est-ce que les personnes sont libérées?
Et le commandant de brigade dit, mon ami, rentre chez toi. Quelle devrait être la suite? Puisque le juge porte plainte contre moi pour diffamation. Mais on a démontré que je ne l'ai pas diffamé. Dans un pays normal, le parquet devrait se retourner contre ce juge-là. Maintenant, mon ami, par rapport à ce qui a été écrit, viens te justifier.
On n'en a pas entendu parler. Donc, Pascal, penses-tu qu'avec cette façon de faire, je serai encore encouragé à porter sur la voie l'espace public ces genres de situations, les lanceurs d'alerte, si on doit continuer le travail et que des plaintes nous tombent sur la tête, il faut que ces institutions qui nous encouragent à aller dans le bon sens soit derrière nous pour nous encourager.
D'accord, merci beaucoup Godson pour cette interpellation. Alors, Firmé ?
Oui, trois petites choses. La première chose, c'est par rapport à l'AES. Moi, ça me paraît un peu bizarre que des Togolais encouragent les putschs. Ça me paraît extrêmement bizarre. Vous savez ce qui se passe au Burkina Faso ? On emprisonne des journalistes. On emprisonne des défenseurs des droits de l'homme. On interdit les partis politiques d'activité. Les Togolais applaudissent ça. Mais moindre chose, ici, quand on enferme des journalistes, nous crions tous, nous disons que ce n'est pas bien. Mais ailleurs, on peut le faire. C'est la même chose au Mali. C'est la même chose au Niger. Et vous voulez qu'on encourage ça? Et vous pensez que ça peut aller loin? Mais excusez-nous. Mais on, qu'est-ce qu'on veut? Donc, il faut Yassine aussi commence par arrêter les gens. Interdit aux partis politiques de faire leurs activités. Et vous allez dire que c'est une bonne chose. Ce que les gens sont en train de vivre dans ces trois pays, mais c'est atroce. Moi, j'ai des contacts dans ces pays, mais c'est atroce ce que les gens vivent. Les journalistes ne peuvent plus parler. Vous parlez, on vous enferme. On vous enlève, on fait disparaître. Et vous voulez vous applaudissez ça. Qu'est-ce qu'on veut? Approchant la démocratie au Togo. La deuxième chose, c'est quoi? Quand on dit que la Chine peut nous vendre la technologie, vous croyez que les Chinois veulent que l'Afrique se développe? Vous croyez que la Russie veut que l'Afrique se développe? Mais si la Chine fait un transfert de technologie, qui va acheter ces produits après? Si en Afrique, on fabrique des ordinateurs, on fabrique des voitures, on fabrique des smartphones, mais la Chine va faire le commerce avec qui? La Chine et la Russie ne voudront jamais que l'Afrique se développe. La troisième chose, c'est quoi? Mais des fois, quand on dit qu'on demande à Fonia Simbe d'arrêter les gens, mais des fois, je comprends. J'ai un petit exemple. Ça s'est passé en Espagne. En Espagne, je connais le nom de l'ambassadeur français qui était là. Et il y avait eu un détournement de fonds. Vous savez, dans les locaux de l'ambassade de France en Espagne, il y a certains locaux qu'on loue aux hommes d'affaires. Et normalement, les sous-perçus devraient être versés sur le compte de l'État français. Mais l'ambassadeur et sa femme à l'époque avaient viré les sous sur leur compte personnel. Mais l'affaire a été signalée à François Hollande, c'est lui qui était président à l'époque. On demande à François Hollande de censurer cet ambassadeur. Et il y a ce qu'on appelle le sous-sol du Quai d'Orsay. Les diplomates sont venus dire à François Hollande, tu n'as pas le droit de sanctionner cet ambassadeur. Si tu le sanctionnes, tu tombes.
D'accord.
Donc, il faut comprendre quelque chose.
D'accord, merci beaucoup, Firmin. Oui, Firmin, rapidement, 30 secondes.
Ce que Firmin comprend, c'est que les pays de l'AES ne demandent pas l'aumône aux autres pour se développer. Comment il fait cas de la Chine? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis ne veulent plus trop des étudiants chinois chez eux? Est-ce que vous le savez? Alors, si c'est comme ça, la Chine est arrivée à se développer en voyant aussi nos élites dans ces institutions-là et que de retour, on les donne les moyens et on va développer nos pays. D'accord. C'est simple comme bonjour.
Justement, c'est simple comme bonjour. Monsieur Kofi.
Je vais revenir à cette histoire de l'AES.
Rapidement.
Il y a l'ex-président burkinabé Thomas Sankara qui disait qu'on ne peut pas effectuer des changements importants sans un degré de folie. Alors, il est impossible pour ces dirigeants de l'AES, du Mali, du Niger, du Burkina, de pouvoir vraiment changer les choses sans être un peu fou. On nous parle de démocratie, on nous parle de ces choses-là, mais ils ont leur méthode avec laquelle ils peuvent faire avancer leur pays au nom de l'intérêt de leur pays respectif. L'essentiel, c'est que les citoyens de ces pays-là puissent être au moins à 60% d'accord avec leur gouvernance. Mmh. Je pense que c'est
d'accord. Gervais Pouli.
Oui, mais moi, l'avantage avec ces militaires, c'est que ils ont rendu les Occidentaux un peu polis envers l'Afrique.
Merci.
Quand vous
encore
voyez,
répété.
Le langage a changé. Maintenant, là-haut, je suis d'accord qu'ils ne peuvent pas aller loin. C'est si les populations ne suivent pas. Parce qu'il y a déjà l'engagement politique, il y a le courage politique, il faut saluer ce travail. Mais si les gens ne travaillent pas, mais les applaudissent, mais sans travailler, mais dans 10-15 ans, on va dire, mais les Russes nous ont mis dans la merde, ils sont même pires que les Français, il y a plus de galères et tout ça. Mais si les élites vous disent, ben, on veut s'émanciper, Mais faut s'émanciper, faut travailler. D'accord. Ce que le blanc faisait, c'est à vous de le faire.
D'accord, merci.
Si vous comptez sur le chinois, l'iranien ou le russe pour venir le faire, après 15 ans, il ne le fera pas. Et puis vous allez dire, mais il vous a perdu du temps. Et vous allez demander à ces trois capitaines-là de quitter le pays. On va faire des marches pour demander.
Merci beaucoup, Jérôme Poli. Merci, monsieur Kofi Annani. Merci, Thierry Afanoukoué, Firmin Teko Agbo. Merci à toi. Merci, Gosson Kitomanyan, d'être passé à l'heure dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer cette émission avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis aussi, puisque nous sommes à la fin. Vous qui nous avez appelés, grand merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tout le monde à TV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Moi, je vous retrouve déjà lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Je suis Pascal Lossou. On se retrouve lundi, bien sûr. Au revoir.